Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Et aujourd'hui, nous nous installons quasiment en extase à l'intérieur d'une des grandes salles du Petit Palais pour voir les chefs-d'œuvre, un chef-d'œuvre probablement, un ensemble absolument fascinant. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. C'est le merveilleux rassemblement qui s'appelle le Royaume coloré des êtres vivants de Itô Jakutsu. Nous sommes entre 1716 et 1800. Ça a été peint vers 1860. Et c'est un des rassemblements les plus stupéfiants. On peut le voir avec une admiration technique, avec une admiration spirituelle, avec une admiration poétique. C'est un monument de la spiritualité et de l'histoire de la peinture au Japon.
Je me suis toujours consciencieusement appliqué à la peinture. Et j'ai essayé de restituer les fleurs, les plantes et les arbres, ainsi que l'aspect des oiseaux et des insectes. Pour ce faire, j'ai rassemblé beaucoup de matériaux différents, et ainsi développé le savoir-faire d'un maître. Jakutsu, 1765.
Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Manuela Moscatiello. Vous êtes co-curatrice de cette exposition. Vous êtes
bonjour.
Aussi. Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci.
Bon,
ça va?
Vous avez fait bon voyage jusqu'à nous, depuis
oui.
Le musée Cernucci, qui est quand même à quelques mètres.
Oui, tout à fait, pas
bon.
Loin.
Et vous êtes une spécialiste de l'art japonais, puisque là-bas vous vous occupez, vous êtes la responsable des collections japonaises du musée Cernucci.
Oui,
vous
ça.
Êtes en train de préparer de nouvelles expositions sur l'histoire des arts décoratifs au Japon, mais plus exactement de la peinture décorative, non? C'est pas ça que vous êtes en train de préparer?
Oui, c'est pas seulement de la peinture, mais on va exposer à partir du 26 octobre un des courants majeurs de l'art japonais, le courant décoratif Rinpa. On exposera des peintures, mais également des céramiques, des lacs, des albums illustrés. Ça sera très varié.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le musée Cernucci, tout près du parc Monceau à Paris, c'est un hôtel particulier, merveilleux, à l'intérieur desquels il y a une histoire de notre passion pour l'Asie. Et évidemment, avec nous aujourd'hui, Christophe Le Ribaud, le directeur du Petit Palais, merci infiniment d'être ici. Vous avez un tropisme japonais, parce que c'est pas la première fois que vous montrez de l'art japonais.
Effectivement, il y a 3 ans, on avait présenté l'œuvre d'un graveur un peu excentrique aussi, Kuniyoshi, qui avait suscité d'ailleurs pas mal d'intérêt du public, un public jeune, le public du manga ou même du tatouage, qui voyait là une expression un peu renouvelée par rapport aux chefs-d'œuvre d'Okusai ou des autres artistes plus canoniques.
Pourquoi est-ce que vous avez ce tropisme au musée du Petit Palais? Il y a une relation entre vos collections et cela?
Alors l'idée est plutôt de montrer des artistes un peu méconnus du public parisien, qui peuvent être très connus dans leur pays, mais qui gagnent l'être aussi en France. Ça a été le cas aussi bien du dessinateur suédois Karl Larsson, ou Anders Zorn, toujours parmi les Scandinaves, ou Georges Desvalières. Montrer des artistes vraiment très intéressants, très, très puissants, qu'on n'a pas l'habitude de voir toujours au mur.
Vous avez transformé ce Petit Palais en un grand musée. Maintenant, il y a un public abondant qui vient et qui est passionné par ce que vous avez réinstallé. Bravo, hein, vous avez dépassé le million de visiteurs, je crois.
Oui, assez largement, merci beaucoup. Mais ça fait surtout plaisir de voir un public fidèle qui est prêt à suivre une programmation qui n'est pas nécessairement évidente. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, je pense qu'on est quand même rassuré.
Bon, en ce moment, il y a une très belle exposition aussi, hein, les impressionnistes en exil. Ou les artistes en exil, c'est quoi le titre exact?
Alors, impressionniste à Londres, mais le sous-titre c'est artiste en exil, puisqu'il y a bien sûr une large place accordée à Claude Monet, à Pissarro ou Sisley pendant leur période londonienne, mais aussi d'autres d'autres artistes, d'autres courants, aussi bien Tissot ou des sculpteurs, Carpeaux ou Le Gros, Dalou, etc. Et c'est une manière de présenter comment une communauté d'artistes se forme en exil avec des courants très, très distincts.
Alors j'attends avec impatience la grande exposition Knopf. Au fond, c'est un des artistes les plus mystérieux du nord de l'Europe, si on peut dire que la Belgique est au nord de l'Europe. Mais c'est un artiste, je pense que tout le monde en connaît les reproductions, on voit rarement les tableaux, les pastels rassemblés, ça va être une exposition importante.
C'est un artiste rare qui a peu produit, qui a cultivé le mystère, qui n'a pas donné les clés, donc l'exposition ne répondra pas.
D'ailleurs, tout commence probablement par un doigt sur la bouche, une sorte d'hommage au dieu du silence.
Le silence, absolument, qu'on va
installer. Harpocrate.
Et on va recréer d'ailleurs sa maison atelier, où d'ailleurs il n'habitait pas, mais qui était faite pour impressionner les visiteurs.
C'était à Bruges.
Alors il est né à Bruges, mais c'était à Bruxelles. Malheureusement, comme c'était à Bruxelles, ça a été détruit, mais on en a tous les plans. On va reconstituer en partie ce décor un peu mystérieux, ésotérique. Mais ça, c'est pour le mois de décembre prochain.
Alors revenons à notre aventure, parce que il faut se rendre compte que c'est un trésor absolu que vous avez rassemblé là, Manuela.
Oui, c'est une chance exceptionnelle de l'avoir ici à Paris. Vous savez, c'est la première fois en Europe qu'on expose l'ensemble, et il est sorti du Japon juste en 2012. Car il a été exposé à Washington.
Qu'est-ce qui le rend si sacré, si important ?
Qu'est-ce qui le rend si sacré ? déjà, en fait, vous savez, l'ensemble a été offert par l'artiste au Shokokuji, un monastère zen de Kyoto, quand il avait environ 50 ans. En fait, c'était juste une dizaine de jours après la mort de son frère cadet. Donc, il y a certainement un lien avec cet événement tragique. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, précisément en 1889, le monastère a offert le royaume coloré des êtres vivants à la maison impériale. Donc, à partir de ce moment, en fait, l'ensemble n'a pas été... Disons qu'il est resté un peu dans les secrets. De la collection impériale. C'est pour ça, en fait, que Jakuchu a été découvert, et notamment cet ensemble, par le public japonais ces dernières décennies.
Alors, c'est un ensemble qui est absolument stupéfiant par la maîtrise technique que ça représente, mais aussi par la profondeur philosophique que cela laisse supposer. Et puis, il y a une légende amusante, ou peut-être n'est-ce pas une légende, vous allez nous le dire, un marchand de légumes se met à peindre.
Ah oui. C'est pas une légende, c'est la vie, c'est la réalité. En fait, Jakuchu est né dans un milieu de marchands grossistes de légumes depuis trois générations. Il a été d'une certaine manière obligé à reprendre le commerce familial à la mort de son père, parce qu'il était le fils aîné de la famille. Et donc, il a dirigé ce commerce pendant 17 ans. C'est à 40 ans passés qu'il a pu enfin se consacrer à la peinture. Donc, à partir de ce moment, il a vraiment fait que peindre, et il s'est plongé tellement dans la peinture qu'il a essayé de renouveler plein de techniques de la tradition picturale japonaise. Et c'est justement ça, un des points exceptionnels de cet ensemble, c'est l'attention qu'il donne à la maîtrise et au pigment. Parce que pour tout ce qui concerne la couleur, on peut vraiment dire qu'il était obsédé par la recherche des couleurs. Un exemple magnifique qu'on a découvert en fait lors des travaux de restauration de l'ensemble, qui ont duré environ 6 ans à partir de 1999, a été l'utilisation par la part du peintre d'un pigment qui ne circulait pas vraiment au Japon, c'est-à-dire le bleu de Prusse.
Ah oui,
ou bien un bleu de Berlin.
On va en parler parce que c'est un aspect très important, parce qu'il y a, oui. il y a des aspects de maîtrise technique et puis il y a le contenu. Juste un instant, Christophe Leribaud, est-ce que votre public se rend compte de l'importance de cet ensemble et de l'incroyable maîtrise technique dont Manuela vient de parler ?
Alors la maîtrise technique, elle est évidente lorsqu'on est face aux œuvres, que les reproductions ne peuvent pas rendre compte, et d'une précision absolument incroyable, presque obsessionnelle. Hein. Il ne manque pas un détail de plume, etc. C'est pour ça que la réalisation de chacun de ces grands rouleaux de soie représentait des mois de travail. Hein. Ce qu'on montre, ces 33 rouleaux, c'est l'œuvre de 10 années. C'est vraiment le chef-d'œuvre de l'artiste, et c'est très spectaculaire. Et puis comme ça représente des oiseaux, des fleurs, etc. Ça peut nous parler directement si on aime la nature, ce qui est le cas de tous les Parisiens.
Mais de tous les Japonais aussi.
Absolument, oui, qui viennent toujours regarder nos cerisiers en fleurs dans le jardin du petit palais. Mais ensuite, on peut approfondir la portée plus spirituelle des œuvres.
Oui,
des
parce que tout de même, cette nature est rassemblée autour d'une triade, deux bodhisattvas.
Au centre, il y a le Bouddha historique, Shakyamuni. Et à ses côtés, les deux grands disciples, les deux bodhisattvas.
Et donc on a l'impression que cet ensemble de la nature qui est disposé autour de ces trois grandes peintures verticales très spectaculaires sont là comme si il y avait une relation spirituelle entre le coq, les poules, les grenouilles, les poissons et ces trois entités.
Tout à fait. En fait, c'est comment dire, le monde des êtres vivants qui est autour du Bouddha, qui est là pour écouter ses enseignements et pour, d'une certaine manière, le célébrer sa spiritualité. En fait, ça répond à l'iconographie bouddhique. Ces rouleaux servaient de décor lors de cérémonies bouddhiques et normalement, la présentation était un peu comme celle qu'on a essayé de faire pour le Petit Palais, c'est-à-dire de présenter la triade au centre, entourée, franclée par les rouleaux du royaume coloré des êtres vivants. Et d'habitude, on exposait soit au monastère Shokokuji, jusqu'à quand il a gardé le royaume coloré, les animaux nobles juste à côté de la triade bouddhique.
Donc vous avez changé l'ordre, en fait.
On a essayé de l'adapter à la salle. Mais
pourtant, ça avait peut-être un sens d'avoir le phénix à côté de la triade
bouddhique.
Mais le phénix,
dans la salle, il est en face.
En face, oui, en effet, je l'ai vu.
C'est pour ça. Donc le phénix blanc et le paon blanc, ils sont en face de la triade.
Parce qu'il symbolise la résurrection ou quelque chose.
C'est juste parce que, vous savez, dans le royaume coloré des êtres vivants, on a plusieurs animaux. Et justement, on part des animaux nobles, mais on arrive jusqu'aux insectes les plus infimes. Parce qu'il y a notamment un rouleau qui est consacré à un étang aux insectes, où on trouve même des tout petites fourmis ou bien des insectes.
On voit chaque patte a un trait de pinceau, voilà. Les feuilles sont légèrement percées par les insectes qui les ont observées. Enfin, c'est d'une technique, on va revenir sur tout ça très précisément.
Oui.
Mais c'est effectivement assez extraordinaire de voir ce talent de l'observation. Et ce talent de l'observation a évidemment des racines dans l'histoire de la peinture et dans l'histoire de l'ouverture du Japon à cette époque-là. On va y revenir. Écoutons juste un instant ce que dit Jakuchu.
Fleurs, oiseaux, plantes et insectes ont chacun leur essence propre, innée. La peinture ne doit commencer que lorsque l'on a cerné, à travers l'observation, la véritable nature de cette essence. Yakuche, 1755.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons de l'immense artiste japonais Yakuche, le royaume coloré des êtres vivants, un ensemble de 33 œuvres réunies en ce moment au Petit Palais. Je suis avec Christophe Leribaud. Christophe Leribaud, vous avez entendu cette phrase qui est étrange. La peinture ne commence que lorsque l'on a cerné la véritable nature de l'essence des choses. Alors qu'est-ce que c'est que la véritable nature de l'essence des choses telle que Itō Yakuchu veut nous la montrer? Ce n'est pas seulement la précision des apparences?
Alors, vaste question qui peut guider tous les artistes. En tout cas, il signe Yakuchu pieux laïque.
Oui.
C'est vraiment un peintre, une sorte de, oui, qui d'ailleurs sera presque moine à la fin de sa vie. Donc il y a un regard très très précis sur la nature, sur ce qu'il peut représenter, sur l'infini détail. Donc une vision très spirituelle. Maintenant, il ne faut pas non plus y voir une exposition New Age. Il s'agit véritablement d'une joie aussi de la présentation, parce qu'il n'économise pas les couleurs, les effets de composition, la variété des mises en page, etc. Donc il reste un artiste.
Hein, on se dit que ça va être de la peinture zen, c'est-à-dire un trait de pinceau rapidement fait pour montrer la relation entre soi et la respiration du monde. Et en fait, non, on n'est pas du tout dans ce qu'on attend être la peinture zen. On voit des œuvres d'une coloration et d'une précision extraordinaire, et pourtant, Manuela, vous allez nous le dire, c'est un artiste qui a été extrêmement lié au zen, un zen qui a eu énormément d'influence au Japon, d'ailleurs, à partir de quoi, du 11e ou 12e siècle?
Oui, en fait, Jakucho était très lié au Shokokuji, et notamment au moine
supérieur. Qu'est-ce que c'est le Shokokuji?
Le monastère zen à qui il a offert... le royaume coloré des êtres vivants et notamment à un moine supérieur de ce monastère, Daiten. Il était son ami fidèle.
Est-ce que ce Daiten dont vous parlez n'était pas considéré comme une sorte de moine parfait, celui qui est à la fois savant, actif, poète, peintre?
Tout à fait, il était très savant, il était un moine lettré, il était auteur de textes en prose et en poésie. Et les deux, ils partageaient cet intérêt profond pour le zen, mais aussi pour la culture traditionnelle chinoise.
Vous pensez que Jakucho se considérait comme un moine laïque, en quelque sorte? Oui. Il signe un petit peu comme ça, non?
Oui, tout à fait. Il signe comme ça. Il se considérait un moine, ça, c'est sûr. Il était quelqu'un de très spirituel. C'est pour ça que je pense qu'il faut voir un peu au-delà de ce qu'il représente.
Donc vous aussi, vous pensez qu'il y a une essence qu'il montre?
Moi, je pense qu'il a vraiment uni son parcours personnel à son parcours spirituel.
D'ailleurs, à chaque fois qu'il signe, j'ai remarqué, il dit « peint par le pieux laïque Jakucho au printemps de la 8e année », etc.
Oui.
Donc, il s'appelle le pieux laïque et il insiste là-dessus en écrivant directement sur le tableau sa signature. Quoi.
Oui, ça, c'est un de son nom d'artiste, son nom de pinceau.
Il en a plusieurs. Qu'est-ce que c'est, le boisseau de riz? Il y en a un autre, c'est...
Oui, ça c'était un moment de sa vie, en fait, où il a connu pour la première fois une sorte de précarité, parce que le grand incendie qui dévaste la ville de Kyoto en 1788 réduit à misère aussi l'artiste. Il perd ses propriétés, donc il est obligé à gagner sa vie en peignant, donc il demande un boisseau de riz contre une peinture, contre un lavis d'encre.
Il y a une autre signature que j'aime beaucoup, c'est parce que j'ai décidé d'appeler mon bureau comme ça maintenant. C'est créé par le pieux laïc Jakucho du pavillon de l'esprit détaché.
Ça, c'était son atelier.
Le pavillon de l'esprit détaché,
oui,
j'adore.
Shinenkan, que j'ai traduit par le pavillon de l'esprit détaché.
C'est une bonne traduction. Vous n'êtes pas trompé ou vous avez... Parce que je vais vous la voler.
Hein? Allez-y.
Non, mais c'est très beau parce que ça donne le climat, l'état d'esprit dans lequel il se trouve.
Voilà, tout à fait. Et son détachement.
Alors, peut-être qu'il faut que vous nous expliquiez un petit peu ce qui se passe à ce moment-là au Japon. On est dans un moment qu'on appelle la période d'Edo, c'est ça?
Oui,
Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un Japon qui s'ouvre? Qu'est-ce qui s'est passé? On vient d'où?
C'est un Japon très fermé, en fait, qui est resté fermé pendant 201 environ. Et d'un point de vue artistique, c'est ça que je trouve très intéressant. C'est une période formidable. Parce qu'on a plusieurs écoles de peinture, la peinture des lettrés, par exemple le mouvement, le Kyoé, que nous connaissons par les estampes.
Le Kyoé, c'est les estampes du monde flottant,
oui,
on peut dire.
Ce qu'on traduit par le monde flottant, tout à fait. C'est pas seulement des estampes, c'est des peintures aussi. Et il y a des artistes comme Jakucho, par exemple, avec deux autres, notamment Rosetsu et Shohaku, qui sont considérés comme les trois excentriques. Donc, ils ne font pas partie d'une école en particulier, mais ils forgent un style tout à fait personnel.
Et donc, ces excentriques dont vous parlez, ils s'opposent en quelque sorte un petit peu au sérieux de la peinture de l'époque. Ils ont une différence. J'ai l'impression, je me souviens de l'un d'entre eux qui peint d'un trait de pinceau, d'une façon presque caricaturale, une courtisane, un autre.
Ils ne suivent pas la peinture de type académique. Par exemple, dans le cas de Jakucho, où il a étudié auprès d'un artiste académique. Mais finalement, il a bientôt compris qu'il fallait peindre d'après nature. Et donc, vous l'avez dit, il est un grand observateur de la réalité, mais en même temps, je pense qu'il va au-delà de la réalité, et c'est ça son côté excentrique.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas, parce que là, on est dans un moment où il y a une famille qui règne, qui est extrêmement puissante
sur
le Japon, et qui, tout d'un coup, donc... ouvre un petit peu le Japon, et on sait que dans une des villes, vers Nagasaki, je suppose, on peut apercevoir ce qui se passe ailleurs qu'au Japon, et les artistes sont probablement très curieux de ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent voir?
En fait, oui, le Japon est très fermé en ce moment. Et il y a la dynastie de Tokugawa, ses shoguns, ses gouverneurs militaires, en fait. Mais bien sûr, il y a des raisons, des points comme Nagasaki, où on peut trouver, notamment par exemple pour ceux qui concernent l'art, des estampes qui arrivent d'Occident et qui auront une certaine influence sur les artistes. C'est aussi un moment où le Japon s'ouvre à un intérêt très particulier pour les sciences naturelles, par exemple. Et ça se voit aussi dans l'œuvre de Jakuchu.
C'est-à-dire, je pense à ça, Christophe Leribaud, vous savez, je ne sais plus comment s'appelle cet artiste hollandais, et je crois qu'il y a eu des relations entre ce qu'ont vu les artistes japonais à cette époque-là et les artistes qui peignaient très très précisément des natures mortes, des artistes hollandais qu'on voyait au Japon à ce moment-là. Ils ont essayé d'observer tout ce qui n'était pas de la peinture religieuse chrétienne, parce qu'il y avait, je crois, au Japon, une très grande peur comme ça d'avoir une sorte de recevoir des missionnaires à nouveau.
Alors, effectivement, ce sont les œuvres hollandaises particulièrement, qui sont arrivées discrètement dans les ports japonais. Alors à l'inverse, l'art japonais, lui, a été diffusé et en Europe avait une très très forte influence dans ce XVIIIe siècle avide d'exotisme, de nouveautés. Le regard de Jakuchu est donc un petit peu, quand même, c'est quelqu'un d'un petit peu centré sur ce monastère, sur la tradition chinoise, mais il essaie de faire des choses originales, et il a souvent beaucoup d'humour. Alors, on le voit dans des détails hein, qui peuvent représenter la pieuvre, avec la toute petite pieuvre arrimée.
J'ai trouvé ça formidable. Il y a le bébé de la pieuvre est arrimé à l'une de ses tentacules. Il y a une grosse pieuvre en plein milieu, comme ça, magnifique, avec tous les poissons autour. Certains en bleu de Prusse, dont vous parliez tout à l'heure, on va y revenir.
Oui.
Et puis, effectivement, ce petit détail savoureux. Mais il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup d'humour dans beaucoup des tableaux.
Il y a un vrai amour de la nature. Il montre des coques de profil, très bien. Puis tout d'un coup, il y en a un de face, les yeux écarquillés. Et donc c'est très savoureux, mais il a aussi de l'humour dans d'autres œuvres plus libres, parce que là on a quand même affaire vraiment à sa grande composition de l'œuvre de sa vie. Mais il a peint à l'encre notamment des légumes, puisque c'était après tout le commerce familial. Il n'a pas hésité à représenter même des scènes bouddhiques transcrites en étalage de légumes. Alors là, d'un pinceau très libre, alors, parce qu'il y a toujours plusieurs techniques possibles. Alors, c'est de la peinture très précise sur la soie.
Vous parlez du nirvana des légumes. C'est quand même un truc totalement stupéfiant. Alors, c'est pas dans l'exposition, mais c'est un des chefs-d'œuvre de Jakuchu. Vous pouvez nous en parler, parce que qu'est-ce que c'est que le nirvana des légumes? On voit des radis, des épis un petit peu palichons au fond, et des légumes qui ont l'air de s'extasier devant l'un d'entre eux.
Oui, en fait, c'est une des peintures qu'on peut la considérer comme la plus anticonformiste de l'artiste, mais en effet, c'est vraiment une iconographie, il répond à une iconographie assez classique, c'est la mort, l'extinction totale, l'extinction de Bouddha.
Ça, c'est la figure du chant. Comment ça s'appelle?
Oui,
c'est un radis japonais.
Alors là, c'est un radis fort chaud, mais c'est Jakuchu qui remplace la figure de Bouddha, qui est normalement allongée sur son lit funèbre.
Vous savez, c'est ces radis qui ont des légers, des prolongations comme ça, un peu bizarre,
oui.
Et qu'il est couché comme position de nirvana.
Oui,
comme,
voilà. Il est couché, il est sur un panier, en fait.
Et autour de lui, il y a des légumes consternés.
Il y a des légumes et des fruits qui participent d'une certaine manière à la douleur pour la perte de Bouddha. Alors que dans l'iconographie traditionnelle, vous trouvez des bodhisattvas, des animaux aussi, des divinités, etc. Et tout, en fait, correspond à des légumes. Donc c'est vraiment les légumes du potager, les légumes qui faisaient partie de son milieu. Mais il y a un essai très éclairant dans le catalogue de professeur Robert qui nous explique en fait que tout ça, ça correspond à une doctrine bouddhique. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on a l'impression d'une image un peu ironique, mais c'est pas du tout ça.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
ça veut dire que c'est quelque chose de très spirituel. Ça veut dire que les légumes aussi, ils connaissent la spiritualité du Bouddha.
C'est-à-dire que l'esprit de Bouddha est dans tous les éléments de la nature.
Oui. jusqu'aux fruits et aux légumes, et pas seulement en fait les animaux, les êtres pardon sensibles, mais aussi les êtres qui n'ont pas de sensibilité.
Vous pensez, Christophe Le Ribaud, que cette attention incroyable que porte l'artiste à chacun des éléments de la nature vient de ce respect pour le Bouddha qui serait donc présent comme élan en chacun d'eux?
Ça va faire trembler tous les auditeurs véganes, hein, qui vont devoir réfléchir même devant une salade. En tout cas, ce sont des œuvres vraiment dont on se lasse pas de regarder les détails. C'est un petit peu sans fin. Il y a énormément de choses. C'est assez chargé, hein. Effectivement, c'est pas une succession de juste un grand trait de plumes. C'est assez chargé. On est en plein dans le XVIIIe siècle. Et il y a un immense respect, amour pour les sujets qu'il représente. Et puis pour l'exposition, donc on a pu réunir à la fois cette triade bouddhique et ces représentations, ce sorte de tableau de la nature, puisque d'ordinaire, la triade est restée au Sokokuji de Kyoto, et les autres rouleaux sont à Tokyo. Donc c'est vraiment pour l'exposition qu'on a pu reconstituer cet ensemble, et donc accentuer cette clé de lecture religieuse. D'ailleurs, l'exposition a d'ailleurs été consacrée par le prêtre du Sokokuji et ses assistants, c'était assez impressionnant pour reprendre le rituel d'origine, puisque ces œuvres ont vraiment été offertes en échange, je puis dire, de messes en souvenir de son frère et de sa famille, et la tradition a été maintenue.
Alors, si je comprends bien, il y a cet extraordinaire peintre qui va être un des peintres les plus marquants de son époque, qu'on redécouvre en ce moment, qui fait ce chef-d'œuvre auquel il se consacre pendant 10 ans. Il connaît très bien l'histoire de la peinture pour laquelle il a une passion toute sa vie. Il a regardé un petit peu la peinture hollandaise, je pense, et beaucoup la peinture chinoise. Il paraît qu'il a fait des milliers de copies dans sa jeunesse de peinture chinoise.
Oui,
quel est le rapport entre la Chine et le Japon à ce moment-là, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que la peinture chinoise est tellement désirée et admirée par les lettrés, semble-t-il?
Ça aussi, c'est une question.
C'est une grande histoire.
Je pense, pour ce qui concerne Jacucho, il a eu la chance d'abord d'avoir accès aux grandes collections de peintures chinoises des temples de Kyoto. Et ça, c'est grâce à Daiten, son ami, moine. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il a pu copier ses peintures. Il s'en est inspiré énormément. Je pense que c'est surtout pour des questions spirituelles, notamment. Après, vous savez, il y a un détail dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, les feuilles trouées ou bien avec rangées, ça montre une nature avec un côté aussi décadent, c'est-à-dire ça montre le cycle végétatif de la plante et qui est représenté par les peintres chinois, notamment des dynasties Song. Ça, c'est un aspect qui a beaucoup frappé Jacucho et qui est reproduit dans son œuvre très souvent. Ça devient presque son marque de fabrique. Sauf qu'il transforme tout ça. Il y a sans doute des raisons spirituelles. Mais ces éléments deviennent d'éléments naturalistes, des modules décoratifs dans son œuvre.
Il semblerait que les lettrés se soient passionnés aussi pour la Chine, au point que la cérémonie du thé était influencée par la Chine, que certains lettrés particulièrement riches prétendaient que l'eau de leur thé était de l'eau qu'ils faisaient venir de Chine. Enfin, il y a des détails comme ça dans le catalogue qui sont absolument stupéfiants. Et donc, je ne me rendais pas compte qu'il y avait cette adoration de l'esthétique chinoise qui, à partir de, je sais pas quoi, du 12e ou 13e siècle, devient un signe de distinction en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Il y a eu aussi des moines chinois qui se sont installés au Japon. Par exemple, Jacucho était très proche aussi à cette secte Obaku. C'est des moines qui se sont installés d'abord à Nagasaki et ensuite pas loin de Kyoto, où ils ont fondé un temple, le Manpokuji, qui existe toujours. Et notamment la figure, un personnage, en fait, le moine Baizao, qui a joué, comme Daiten, un rôle très important.
Ah, c'est un personnage extraordinaire. Vous avez vu que Christophe Le Ribaud, un petit peu l'histoire de ce personnage qui quitte son monastère pour devenir vendeur de thé.
Oui, dans les rues, mais en même temps, tout en étant un grand lettré et reconnu comme tel. Donc, toute sorte de
oui,
de
c'est neveu un de Rameau. Paradoxe. Enfin, oui, un peu le neveu de Rameau. Hein. C'est très Diderot, on est dans la même époque d'ailleurs.
Absolument.
Hein. donc à quelques années près, c'est exactement à la même époque, ce grand lettré, ce grand moine qui se fait vendeur de thé et, alors, et qui dit « Celui qui boit du Sancha connaîtra Bouddha et celui qui boit du Tuosha est bien loin du paradis », enfin quelque chose comme ça.
Bah oui, parce que le thé, il considérait le thé comme une voie pour arriver dans un état spirituel, en fait, une voie intérieure.
Qui peut produire le satori.
Oui, d'une certaine manière. Oui.
Comme un koan. C'est un terme assez important dans le monde du zen qu'aimait.
Oui, mais d'ailleurs, c'est toujours Baisao qui a écrit cette ligne, cette phrase, vous savez, pour Jakuchu, après avoir regardé ses peintures, qui peut être traduite par la suprême habileté de sa main, communique avec le divin. En fait, Jakuchu, il a été énormément séduit par cette phrase et après, il en a fait un sceau qu'il a porté sur ses peintures.
Il en a fait un quoi ?
Un sceau.
Un sceau. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle un koan ?
Un koan, c'est une phrase, normalement... non, c'est un peu différent, c'est vrai. C'est pas ça.
Ça, c'est une admiration, en fait, qui vient pour cette main
qui
est inspirée. C'est vraiment le signe de l'inspiration. C'est vrai que Jakuchu a été très, très fier de cela. Hein. Il en a fait un sceau, dites-vous.
Oui.
Et ça l'a marqué... Parce que justement, c'était le signe qu'il était sur la bonne voie.
Peut-être, oui. Ça l'a marqué, notamment qu'un personnage comme Baisao, qu'il a apprécié énormément, a aimé ses peintures, je pense, a pu saisir vraiment l'essence de ses peintures.
Alors, avant de parler de l'essence, peut-être parlons de la matière. Il y a, d'abord, ce sont des peintures sur soie. C'est quelque chose, c'est une technique qui était traditionnelle là-bas ou c'était plutôt le papier ? Je croyais que depuis le 14e ou 15e siècle, le papier s'était imposé au Japon.
Oui, mais au Japon comme en Chine, le support, normalement, c'est soit en soie, soit en papier. Après, bien sûr, la peinture sur soie est une peinture très délicate, non seulement d'un point de vue de conservation, mais aussi d'exécution. Vous savez, on remarque en regardant ces peintures qu'il n'y a pas de repentir. Donc l'artiste peint directement sur la soie.
Mais il y a un dessin préparatoire quand même.
Parfois, on peut supposer, oui, qu'il y a eu des dessins préparatoires, mais même avec des dessins préparatoires, c'est pas évident de ne pas avoir de repentir. En fait, c'est pas comme la peinture à l'huile, hein. On peut pas se tromper.
Moi, ce qui m'a bluffé, Christophe Leribaud, en regardant ses peintures, et en regardant d'ailleurs quelques informations que vous donnez au début de l'exposition, c'est de me rendre compte qu'il peignait des deux côtés de la soie, et avec un travail sur les pigments, sur les matières extraordinairement complexes.
Alors, il est fasciné effectivement par la couleur, les techniques. Alors, peindre au revers, c'est pas entièrement recto verso, mais il y a cette manière de souligner, de rendre plus profond certaines zones de peinture en rehaussant avec un ton particulier. On peut par exemple obtenir du doré en peignant de l'ocre au revers, mais qui à travers la soie et en cerné de blanc peint sur la face donne cette impression. Donc c'est très virtuose évidemment. Et puis il s'intéresse à des pigments composés aussi bien de poudre de coquillage, de le bleu de Prusse finalement qui est une nouveauté absolue, arrivé certainement en contrebande, il réussit à en obtenir un petit peu et le mettre sur certains poisson. Certains détails, oui, de poissons, il est tout à fait au fait des innovations techniques.
Moi, ce qui m'a frappé, Manuela, c'est de voir que il y a une façon de déposer la matière, parce que là, c'est pas seulement de la peinture lisse, c'est parfois de la matière, elle est granuleuse à certains endroits, elle est lisse à d'autres, elle est pulvérulente à un troisième endroit, et à chaque fois ça correspond à une façon de broyer la matière pour obtenir une ombre, un reflet, c'est extraordinaire comme travail.
Oui, c'est extraordinaire. Quand je vous disais qu'il était obsédé par les pigments, c'est vraiment ça. D'abord, il applique les pigments par couches. Donc c'est vraiment la superposition de couches, c'est ça qui donne des nuances très brillantes de la couleur. Et après, bien sûr, la technique de coloration de revers joue beaucoup dans l'effet d'ensemble. Mais il y a aussi des autres techniques qu'il applique en fait à ses peintures. Et notamment, il fait une utilisation très spéciale, en fait, d'eau au fond, de cette poudre de coquillage broyée. Et il applique à plusieurs couches, ce qui fait vraiment qu'on a l'impression presque d'un relief par rapport à d'autres peintres de la même époque.
Et puis alors, il utilise la laque à certains endroits.
Oui, il y a des détails comme les yeux, par exemple, des petits moineaux ou des poissons qui sont obtenus par l'application de la peinture à la laque. Ça, c'est vraiment c'est sa signature, c'est quelque chose à Jack Chu. Et ça rend, comment dire, ça crée un effet très vif. C'est vraiment très vivant, en fait, de voir ces petits oiseaux avec ses yeux laqués, de laque noire. Le reflet de la lumière sur cette laque donne vraiment quelque chose de très vif, on a l'impression.
Oui, on a vraiment l'impression que la pupille est ronde,
oui, voilà.
Que la lumière se réfléchit dessus, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que vous avez choisi, Christophe Leribaud, votre œuvre préférée dans cette aventure?
Alors, par chance, c'est un ensemble. Donc, les 33 rouleaux constituent
une œuvre. Mais vous avez, l'un des rouleaux vous plaît plus qu'un autre?
Ah, il y en a quand même. Il y a un rassemblement de coqs, d'ailleurs totalement fantaisiste. On ne peut pas imaginer 15 coqs coexistants comme ça, qui est absolument fascinant. Mais c'est quand même assez complexe parce que j'ai la chance de pouvoir bénéficier là depuis quelques jours de cet accrochage. Et à chaque fois, on retombe sur quelque chose de différent.
Moi, j'en ai vu deux
vôtre.
Qui m'ont. Moi, j'ai adoré une avec une escadrille d'oiseaux qui plonge sur, je sais pas, sur des baies sauvages. Il y a 30 oiseaux comme ça en piqué, un seul oiseau blanc au milieu,
voilà.
Et ils arrivent sur des petites baies rouges extraordinaires. Chaque plume est peinte, chaque oiseau a une expression différente. Et en bas, là où il y a les baies, il y a quelques insectes. Et puis là, l'effet de plongée est absolument inouï, quoi. C'est extraordinaire. Et vous avez votre préféré?
Moi, je n'ai plusieurs, bien
alors,
évidemment.
Alors, décrivez-nous celui que vous aimez.
J'aime
plus.
Beaucoup ce coq noir avec des baies de nandine.
C'est quoi le nandine?
C'est des baies rouges, très très rouges. Vous savez, c'est un des rouleaux où la gamme chromatique est très réduite. Et on a, voilà.
Alors.
Et on a ce grand coq noir dont le corps est d'une tension incroyable, qui est en contraste avec les baies de nandine très très rouges, créées avec des petits ronds. Là aussi, il y a un usage formidable de la technique de coloration du revers, notamment pour obtenir le rouge brillant des nandines.
C'est extraordinaire. Et puis, alors, sur les rouges, il est inouï. Il n'y a pas une plume qui ne soit pas peinte. Il n'y a pas une plume qui ne soit pas différente des autres. C'est comme quand on voit les feuilles d'érable. Elles ont toutes un degré de transparence différent selon l'orientation du soleil. Chacune a une vie différente. On a l'impression que c'est un cycle du temps à l'intérieur de chacune des œuvres.
Et puis, il y a 400 feuilles d'érable, sur le même, sur le même panneau. Oui.
Mais oui, c'est ça.
Presque 570.
Vous avez compté 570. Et alors,
c'est
si on parle des plumes blanches, parce qu'il y a plusieurs oiseaux blancs comme ça, là je suis devant des perroquets blancs, il y a des coqs blancs, des phénix blancs extraordinaires. Et là, c'est, faut s'imaginer peindre une surface faite de, je ne sais pas, 300, 400, 500 plumes blanches, pour que chacune ait sa propre lumière et qu'on n'ait jamais la lassitude d'un aplat blanc.
Oui, tout à fait. Mais en fait, notamment ce plumage blanc, ça nous fait penser à la délicatesse des dentelles. Vous voyez, c'est créé vraiment avec une répétition, parfois, du même trait. Mais c'est très vif et extraordinaire à la fois parce que ça donne aussi quelque chose d'artificiel. C'est ça que je trouve incroyable chez Jack Chu, c'est-à-dire un réalisme, un naturalisme très très poussé, mais à la fois un côté décoratif, artificiel, qui nous déstabilise un peu.
Le réalisme, on parlait tout à l'heure de la nature morte hollandaise, Van Goyen, comme ça qui arrive, peintre royal, mais il y a aussi probablement l'arrivée d'un travail naturaliste ou de dénaturaliste. C'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir à ce moment-là au Japon des collections de représentations de plantes, représentations d'insectes, une sorte d'inventaire, non, qui se fait.
Oui, notamment quand je vous parlais justement de cet intérêt pour les sciences naturelles, c'était surtout ça. Par exemple, le programme des rouleaux, c'est lui qui représente plus que 100 espèces de coquillages. On suppose que Jacques Chou a pu admirer la collection de coquillages d'un de ses amis intellectuels, Kimura Kenkado, qui a publié en fait un recueil de coquillages rares en 1775.
Est-ce que c'est un moment où il y a une sorte de positivisme dans l'esprit japonais aussi, comme on l'a avec l'inné en Europe au même moment, et où il y a un goût de l'inventaire, on compte les insectes, les plantes, les etc. Non, il n'y a pas quelque chose comme ça?
Oui, on peut parler de ça sans doute, donc cet intérêt pour les insectes, pour les traités, parfois c'est des traités en fait d'herbes médicinales, notamment chinois. On trouve ça très souvent, sont très répandus à l'époque d'Edo au Japon. Donc cet intérêt justement pour les herbes médicinales, cette étude de la pharmacognosie en fait est très diffusée en ce moment au Japon, mais ça vient de Chine aussi. Ce sont notamment des manuels, des traités qui viennent de Chine et peut-être aussi de l'Occident également. Jakucho, je pense qu'il a été très attiré par ça.
Et c'était un personnage plein de curiosité, ou est-ce que c'est... Parce que par moments, il dit « mais je suis dans mon jardin avec mes poules, il vit avec des poules, il a des animaux, il est dans l'observation directe
oui. ».
Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui exerce sa culture avec les autres œuvres?
Oui, je pense qu'il avait des relations avec, dans les milieux intellectuels de Kyoto, ça c'est sûr, mais je pense que sa curiosité visait surtout dans le domaine de la peinture. Vous voyez, des couleurs, des techniques. Il a vraiment beaucoup étudié, beaucoup renouvelé les techniques. C'est ça qui l'intéressait énormément. C'était la peinture et il en a fait son parcours personnel.
Est-ce que vous ressentez, Christophe Le Ribaud, l'influence du zen dont on parlait tout à l'heure dans son travail, ou est-ce que c'est lisible?
Je crois que la présence de la triade permet d'accentuer cet aspect, parce que ensuite on peut y voir aussi des panneaux très très décoratifs qui correspondent pas à notre idée très dépouillée effectivement du zen, juste un cercle, etc.
Quand on voit le soin avec lequel il le fait, on s'étonne qu'il soit classé dans les excentriques.
Parce qu'il a des traits de fantaisie. On a insisté sur la précision de sa technique. Et en même temps, il peut, pour représenter la neige, souffler sur le pigment. Et tout d'un coup, on a comme ça une sorte de dripping sur un de ses compositions, où on voit par ailleurs des moineaux un peu pétrifiés et le gel sur les petites branches. Hein.
Il a une façon de représenter la neige comme ça qui coule, qui commence à fondre sur les branches. C'est absolument extraordinaire parce qu'on se rend compte que c'est de la peinture qui coule en fait. C'est assez extraordinaire. Il y a énormément de paysages enneigés dans l'ensemble.
Oui, oui. Et d'ailleurs, il rend la neige d'une manière incroyable. Mais je pense qu'il faut remarquer aussi que dans divers rouleaux, il peint aussi en adoptant des différents points de vue. C'est ça aussi qui est très intéressant. Par exemple, soit dans l'étang aux insectes, vous savez, ce rouleau avec... On voit vraiment les insectes reproduits sur plusieurs
fronts. Vous pouvez nous le décrire, ce rouleau, vous l'avez en tête?
Oui, oui, je l'ai en tête. C'est un univers incroyable, très bouillant, très peuplé de grenouilles, de petits insectes. Et il y a même des petits portraits extraordinaires d'insectes qu'on voit, par exemple, à travers le trou d'une feuille. Là, par exemple, l'aspect un peu maladif de la nature, on le retrouve très souvent parce que il y a un nombre exceptionnel de trous dans les feuilles et de changements de pigmentation des feuilles qui nous montrent un peu...
La corruption du monde?
Je ne sais pas si c'est la corruption du monde, c'est peut-être le côté précaire de la vie.
Est-ce que vous pensez que l'ensemble représente aussi un cycle de la vie et de la mort, mais aussi des saisons? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand il a fait ce projet, c'est un programme qu'il décrit?
La saison est toujours évoquée. ça, chez Jakuchu, dans l'art japonais en général, la connotation saisonnelle, on la retrouve toujours, comme par exemple le holo dont je vous parlais tout à l'heure, du coq avec les nandines. Là, on est vraiment dans un moment précis de l'année, entre la fin de l'automne et le début de l'hiver. Après, oui, je pense qu'il avait une idée très précise d'arriver à compléter les 30 rouleaux et de s'en servir pour décor autour des Bouddhas. Pour les sujets, je n'ai pas d'idée précise là-dessus, mais c'est un choix très varié.
Parce qu'on a l'impression, moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe, que quand je regarde les tableaux, surtout dans les tableaux sous-marins, je dirais que l'impact des saisons est moindre. Cela dit, la précision de la représentation du poisson est stupéfiante, parce qu'en général, quand on voit les poissons sur un étal de poissonniers, ils perdent leur couleur. Là, ils sont comme on les voit avec un masque sous l'eau. Alors, je ne sais pas s'ils faisaient de la plongée sous-marine déjà au XVIIIe siècle, mais c'est étonnant la coloration, par exemple.
Peut-être qu'il avait constaté justement au marché de Kyoto jusqu'à l'âge de 40 ans qu'il a voulu montrer des poissons plus vivants. Et bien sûr, il y a un art, une habitude des bassins, des sortes de récipients en céramique où il peut y avoir des poissons. C'est toujours très, très, très vivant au Japon. Il y a un grand respect pour... je suis sûr qu'il doit avoir un vocabulaire plus développé qu'en français sur les écailles, les reflets.
Enfin, sûrement, parce qu'ils ont une telle passion pour la nature. Enfin bon, il y a une tradition shinto. En même temps, ils sont zen, mais aussi en même temps shinto. Enfin, ils sont beaucoup de choses à la fois. Mais moi, j'ai l'impression que dans chacun des rouleaux, il y a un cycle complet. En fait, il y a la sensation d'une complétude, c'est-à-dire qu'il y a le caractère rayonnant d'un phénix, mais il y a le soleil couchant, il y a la grande pieuvre qui est au centre, mais il y a l'enfant. C'est à chaque fois, j'ai l'impression, il y a les feuilles d'érable, mais elles sont déjà corrompues, il y a l'automne et le... C'est comme s'il y avait à chaque fois, chacune était un petit cosmos complet d'un point de vue temporel. Vous n'avez pas cette sensation ?
En tout cas, chaque rouleau peut être vu indépendamment. Il y a une vraie composition. Alors, c'est peut-être aussi des diptyques, hein, puisqu'il y a souvent, c'est quand même par paire. Hein,
les
poissons, les insectes, ouais. les grues, les hérons,
les hortensias,
les phénix. Donc, c'est plutôt par.
C'est pas des hortensias, si c'est quoi les grandes
fleurs ? Il y a aussi des
hortensias. C'est des hortensias à la fin, là, grandes fleurs blanches, incroyables. Qui sont comme des lotus, comme ça.
Ah, oui, mais il y a aussi des hortensias, toujours avec un coq, des tournesols aussi, il y a plusieurs fleurs. Ah, des chrysanthèmes, peut-être.
Peut-être.
Oui, les grands chrysanthèmes, oui, tout à fait.
Le royaume du chrysanthème.
Ouais. Non, c'est un moment extraordinaire. Est-ce que on peut essayer d'expliquer pourquoi Jakuchu un peu disparu de la mémoire? J'ai eu l'impression qu'il y avait un blanc dans l'histoire de Jakuchu, dans sa fortune, si je puis dire.
Oui, c'est une vraie redécouverte. Il faut dire qu'en son temps, il n'a pas eu énormément de disciples. C'est quand même quelqu'un qui est un peu replié sur ses réflexions et sur les temples avec lesquels il a vécu à proximité. Il a ensuite été oublié aussi parce que son œuvre principale a rejoint les collections impériales au XIXe siècle. Et ça a vraiment été une redécouverte il y a une quinzaine d'années à la suite de la restauration de cet ensemble. Le fait qu'il ait pu être prêté, montré à de rares occasions, mais qui ont suscité des vraies émotions, enfin des foules compactes au Japon. Donc il est devenu vraiment la révélation, le 18e, un peu comme Vermeer pour le 17e siècle. C'est vraiment un artiste un peu hors norme, qui a eu une carrière quand même qui n'a commencé qu'à 40 ans, qui a connu aussi les destructions de ses œuvres avec l'incendie de Kyoto, donc un peu oublié parce qu'il était excentrique d'une certaine manière, et puis redécouvert avec d'autant plus de passion au 21e siècle.
Vous avez l'impression que c'est un artiste, la redécouverte de cet artiste a des conséquences sur la relecture de l'histoire de la peinture japonaise de cette époque ?
En tout cas, Jakuchu, il était très connu à son époque, hein, au milieu, au moins à Kyoto. Il était très apprécié aussi. Donc c'est après en fait, qu'il est tombé un peu dans l'oubli, notamment au XXe siècle. Et bien sûr que c'est un artiste qu'il a un peu bouleversé la manière de peindre au XVIIIe siècle japonais. Donc forcément, il a exercé une influence très importante.
Écoutons-le encore une fois, ou plutôt, écoutons ce que l'on en dit à cette période.
Jakuchu éleva quelques dizaines de coqs dans son jardin. et consacra plusieurs années à observer leurs formes et à les croquer sur le vif. Ensuite, il élargit ses sujets à toutes sortes d'herbes et arbres, oiseaux et bêtes, poissons et insectes, étudiant dans les moindres détails leurs formes et essences. Dayton, 1766.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'art et la matière, et aujourd'hui nous parlons d'un génie de la peinture japonaise, Itô Yakuchu, le royaume coloré des êtres vivants. C'est le titre de l'ensemble de 33 œuvres qui est montré donc au Petit Palais, qui a donné lieu à un très très joli catalogue que j'ai dans la main. Et dans l'exposition, il y a à la fin de l'exposition un album qui ne fait pas partie de ces 33 œuvres, et qui est un objet extraordinaire qui, à mon avis, aurait pu appartenir à l'école de Glasgow, aurait pu être dans une autre histoire des arts décoratifs, et qui est un ensemble de fleurs. Qu'est-ce que c'est ? De quoi parle-t-on, Manuela ?
Oui, donc on passe du royaume de la couleur au royaume du monochrome, en fait, avec cet album qui s'inspire des traités d'herbes médicinales chinoises. Sauf que la mise en page de Yakuchu est extraordinaire, parce qu'on a des images de fleurs, même de légumes, de petits insectes ou animaux qui sont en tout premier plan, avec des cadrages très audacieux. Et c'est, en fait, c'est des images blanches sur un fond noir profond. Ces images sont obtenues par l'inspiration d'une technique d'origine chinoise, la technique de l'estampage. Donc, c'est très exceptionnel, cet album.
Estampage qui est fait en bois,
Bah, en fait, la technique de l'estampage chinois, c'était la reproduction sur papier des inscriptions qui étaient sur la pierre.
Ah, c'est le principe du relevé qu'on utilise encore en archéologie, d'ailleurs, n'est-ce pas, Christophe Ribaud?
Je l'ai pas jamais pratiqué. Oui, mais adapté maintenant à des estampes noir et blanc, assez étonnant. Donc c'est une vision un peu en négatif.
Oui, et vous savez, dans certaines pages figurent des inscriptions. Oui. Ça, c'est Dayton qui les inscrit.
C'est Dayton que nous écoutions d'ailleurs à l'instant.
Hein, oui, tout à fait. C'est toujours lui.
Ce moine qui était le chef du père abbé, on dirait aujourd'hui, du monastère.
Du monastère, avec qui il était très lié d'une profonde amitié. Et avec qui il partageait aussi une vision artistique, en fait. Donc, il y a un certain dialogue entre ces images de fleurs, de légumes et les inscriptions de Dayton qui sont provoquées, comment dire, par des émotions suscitées par ces fleurs.
Vous ne l'avez pas traduite, hein, je crois,
dans l'exposition. Pas dans ce catalogue. Ah, je l'ai traduite dans un autre ouvrage.
Je me demandais justement c'est quel genre, parce qu'au fond, il y a une tradition dans la peinture japonaise qui est une tradition de l'expression intime de l'effet que fait la nature sur soi.
Je m'en souviens d'une, parce que je l'ai traduite pour un autre ouvrage. On voit des hortensias, justement, et Dayton écrit à côté « Amas de nuages ». Ça, c'est l'effet qu'il a en regardant ces inflorescences, vous voyez, de hortensia. Il a la vision de nuages très souples.
Mais c'est ça correspond à cette idée que vous développiez tout à l'heure, c'est qu'il y a dans chacune des parties de son œuvre la totalité du cosmos, en fait.
Oui.
Et c'est pour ça que les légumes sont Bouddha aussi. Et ils ne le deviennent pas, ils le sont depuis toujours, probablement. On est quand même à un moment assez extraordinaire. Le Japon, donc refermé pendant près de 200 ans, à quelques années près, va s'ouvrir. C'est la fin d'une période. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin des grands daimyo, la fin des grands chefs de guerre.
Oui, c'est ce qu'on appelle la restauration Meiji. Donc, c'est la fin de la dynastie des Tokugawa, des shoguns. Il y aura un gouvernement impérial, en fait. À partir de ce moment, c'est l'empereur qui prend la place, et c'est l'ouverture notamment à l'Occident. Donc c'est l'ouverture formelle à l'Occident. Donc,
sous la pression de l'Occident d'ailleurs, hein, parce que l'Occident ne veut pas rater ce marché.
Par les États-Unis, tout à fait.
Les États-Unis en particulier, oui. Et là, l'art japonais s'arrête ou quelque chose d'autre va se passer ?
Non, ça n'arrête pas du tout. Donc justement, c'est à travers ces nouveaux réseaux que l'art japonais et tout ce qui est produit, manufacturé, peinture, album, estampes, arrive en Europe, et notamment en France, à Paris. En fait, il y avait un journaliste au 19e siècle français qui disait « c'est pas la peine d'aller au Japon. Le Japon est ici, à Paris. On peut trouver, on peut admirer l'art japonais partout ».
Mais l'art japonais qu'on a commencé à recevoir à Paris est plutôt un art populaire que l'art savant dont nous parle Jacques Oudchou, non ?
Oui, c'est plutôt un art d'exportation dans la plupart des cas, mais il y a aussi des œuvres intéressantes. Ça arrivera au fur et à mesure. C'est d'abord des céramiques, des laques, mais après, bien sûr, des estampes. Pour ce qui est des estampes, par exemple, il y avait des estampes d'artistes contemporains à l'époque. Donc, par exemple, Kuniyoshi, dont on a parlé tout à l'heure, Kunisada ou bien Hokusai, qui fut bientôt vénéré.
Vous dites Hokusai, voilà. Donc pour nos auditeurs, c'est Hokusai. Hein. Donc, nous, il faut qu'on s'y retrouve.
C'est le même, c'est le même.
C'est le même, bien entendu. Mais c'est deux capitales, en fait. Là, on vient de parler du grand peintre de Kyoto. Et oui. Vous parlez d'Hokusai, c'est le grand peintre des Dos, c'est-à-dire de Tokyo.
Oui, Hokusai, il est connu surtout pour ses estampes. Oui, mais vous savez, Jakuchu, par exemple, était un des artistes qui n'était pas connu, pas trop connu en France au 19e siècle, en Europe. Allez, ça, justement, il y a quand même des exceptions, mais on connaissait surtout des artistes du courant décoratif, par exemple, comme Corinne.
Oui, qu'on adore avec ses grands paravents sublimes sur fond d'or, les iris extraordinaires dans lesquels nous le voyons à travers Van Gogh, bien entendu, mais c'était 150 ans avant.
Oui, tout à fait.
Voilà. Extraordinaire. Merci infiniment, Christophe Leribaud. Merci infiniment, Manuela Moscatiello. Merci de nous avoir porté sur tout ce trésor. Et puis maintenant, on peut dire que Jakuchu, les Japonais ne le connaissaient pas tous. Maintenant, nous, à Paris, nous le connaissons.
Ce serait un accomplissement si ça se réalise.
Merci à vous. Et tout ça, c'est placé dans le cadre d'un événement énorme quand même. C'est la grande saison japonisme qui fait que tout Paris est envahi par les chefs-d'œuvre japonais d'aujourd'hui, d'hier. Ça va de Sugimoto à Versailles, aux je ne sais quels jeunes artistes au Palais de Tokyo, à chez vous, cet immense maître, et à tout le programme, évidemment, qui est lié à ça et dans le domaine des arts vivants. Très belle saison japonaise. Merci.
Merci.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy. Et aujourd'hui, j'ai reçu Christophe Leribaud, directeur du Petit Palais, et Manuela Moscatiello, qui est la commissaire de cette exposition extraordinaire Jakuchu, le royaume coloré des êtres vivants, qui vient de se terminer. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Emmanuel Lemire. Une émission réalisée en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Marie Le Peintre. Et réalisation, comme toujours, Franck Lilin. Merci Franck. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.